Radio Cité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Cité, la radio du gymnase de la Cité. C'est la 1M4 qui vous parle, je m'appelle Michael et c'est le quatrième temps du projet Bisclavret. Bisclavret, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom d'un chevalier qui se transforme en loup-garou. C'est le titre d'une histoire écrite au Moyen-Âge. C'est aussi le titre d'un court-métrage d'animation inspiré de cette histoire et qui est sorti en 2011. Dans une première émission, vous avez découvert un chevalier loup-garou trahi par sa femme et sa terrible vengeance. Vous avez aussi entendu comment on parlait français au XIIe siècle. Dans une deuxième émission, vous avez fait la connaissance de Marie de France et d'Émilie Mercier. La dernière fois, on s'est penché sur les images et sur la musique du film. Aujourd'hui, place au loup-garou et à la peur et aux pulsions profondes qu'il symbolise. Et puis la prochaine fois, pour terminer, on va se demander quel est le sens de cette histoire avec deux interprétations très différentes. Est-ce qu'on nous raconte une histoire d'homme, celle d'un roi et de son chevalier, ou bien est-ce qu'on nous raconte une histoire de femme qui se bat pour sa liberté ? Réponse dans la dernière mission du projet Bisclavret. Allez, on se met dans l'ambiance. Nous sommes toujours sur Radio Cité. C'est la quatrième émission du projet Bisclavret de la 1M4. Salut à Jonathan et Charlotte.
Salut Michael.
Salut.
Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ?
Nous allons aborder un des éléments principaux de Bisclavret. Tu devines ?
Je dirais le loup-garou.
C'est ça.
Allez, c'est parti.
Alors Charlotte, parle-moi un peu plus du loup-garou.
Alors, le loup-garou, c'est la créature qui a le plus intrigué les hommes depuis l'Antiquité. Elle se retrouve dans plein de mythes et de légendes. Elle est connue pour tuer, on peut en devenir une si elle nous mord, et le plus important, elle se métamorphose prenant l'apparence d'un loup les nuits de pleine lune.
C'est monstrueux, avec sa grande gueule et ses longues griffes. Ce sont de vilaines créatures, on dit, hein ?
Oui, on raconte que ce sont des créatures du diable.
Pourtant, on trouve autre chose dans certaines histoires ou contes. Par exemple, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on a un loup-garou gentil.
Ah oui, et j'ai aussi un autre exemple, Twilight, où on a aussi des loups-garous amicaux.
Tout à fait. Et justement, dans Bisclavret, également, on a une version sympathique du loup-garou.
C'est vrai ? Parle-moi un peu de celui-là.
Alors, dans ce récit, le chevalier nommé Bisclavret, fidèle ami du roi, disparaît toutes les semaines pendant 3 jours dans la forêt pour se métamorphoser en loup-garou. Il enlève ses vêtements et les cache dans un endroit sûr, pour pouvoir ensuite les retrouver. Parce que s'il les perdait, il resterait loup-garou pour toujours.
Ah, donc ses habits, c'est ce qu'il relie encore à l'humanité.
Oui, en quelque sorte.
Mais ce loup-garou, il est comment ? Il a bon cœur ?
Oui, c'est une bête gentille, qui agit et qui se comporte de façon humaine. C'est tout simplement un humain enfermé dans un corps d'animal. Pauvre homme, il subit ses métamorphoses malgré lui.
D'ailleurs, je crois que tu as un petit extrait du film d'Émilie Mercier à nous passer. C'est le moment où le chevalier se retrouve seul dans la forêt et se métamorphose.
Oui, dans cet extrait, on peut entendre un claquement, un petit bruit sec, qui correspond au moment où il cache ses vêtements sous une pierre. Ensuite, on entend des grognements qui signifient la métamorphose de Bisclavret.
On écoute. Pas mal, hein ? Mais quand on entend tout ça, on dirait que le mari se transforme en une bête monstrueuse qui donne la chair de poule. Dis-moi, elle ressemble à quoi cette créature dans le film ?
Ce n'est pas du tout comme tu l'imagines. Tu serais surpris si tu regardais le film. L'animal n'est pas effrayant. Il n'a pas l'air méchant. C'est surtout un être malheureux de ce qui lui arrive. En fait, tout au long de l'histoire, on compatit aux souffrances de ce loup-garou.
Mais rassure-moi, ça se finit bien pour lui, non ?
Oui, grâce à son amitié avec le roi qui sait voir au-delà des apparences, il sera sauvé.
Alors voilà, notre chronique touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a intéressé.
Et maintenant, nous allons écouter I See Fire de Ed Sheeran. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with
fire and smoke. Keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember. Close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn all and all the mountains.
Voilà, à présent, bienvenue à Sarah Lou et Justin. Vous allez bien?
Salut Michael, oui et toi?
Ciao Mike, ouais, bien et toi?
Ouais, merci. Dans cette chronique, que vous allez nous parler de pulsions et plus particulièrement de leur rôle dans les relations.
Oui, on va essayer d'éclaircir la nature de ces relations.
Oui, c'est bien ça.
Bon, vous avez l'air prêt. Alors à vous la parole.
Salut Justin.
Hello Sarah Lou. Est-ce que tu te souviens bien du récit du Bisclavret de Marie de France?
Oui, bien sûr, pourquoi?
Ben, en fait, je me souviens plus tellement de la réaction de la femme quand elle apprend que son mari est un loup-garou.
Ah oui, la femme veut absolument savoir pourquoi il disparaît la nuit. Alors, un jour, quand ils sont dans la forêt, son mari craque et lui avoue la vérité. À ce moment, la femme est prise de panique et elle court s'enfermer dans le château. Mais si tu veux, on écoute cet extrait du film.
Ah ouais, volontiers.
Dame, je deviens Bisclavret. Je m'en vais dans cette forêt et là, dans le profond du bois, je vis de rapines et de proies. Si mes vêtements je perdais et si quelqu'un m'apercevait, je resterais loup pour toujours sans plus avoir aucun recours.
Ah mais oui, c'est bon, je me souviens de tout. Ensuite, la femme envoie une lettre à un autre chevalier qu'il aime depuis longtemps. Elle lui explique l'histoire de son mari. Elle lui donne pour mission d'aller voler les habits du loup-garou pour qu'il reste Bisclavret à tout jamais. Après, il rentre au château pour retrouver la femme dans son lit.
D'ailleurs, en parlant de lit, tu ne penses pas que la femme éprouve un manque de ce côté-là?
Bonne question. C'est vrai que son mari est souvent absent la nuit. La nuit qui est un lieu propice à... Enfin, pas besoin de vous faire un dessin. En plus, une des premières choses qui se passe entre elle et son nouveau compagnon, c'est un rapport sexuel. Enfin, il se pourrait même que son mari, loup-garou, soit homosexuel.
Oui, quand on regarde bien le film d'Émilie Mercier, on voit que la relation entre le chevalier et le roi est ambiguë. Mais toi, Justin, tu penses qu'ils ont juste un lien d'amitié ou qu'il y a plus derrière?
Eh bien... Quand le chevalier est un loup-garou et qu'il rencontre le roi, on voit des choses quand même assez explicites. Par exemple, le loup lèche les pieds du roi, il est tout le temps avec lui et même il dort avec lui dans son lit. Plus tard, quand on retrouve ses habits et qu'il redevient humain, le roi lui fait 1000 baisers et 1000 câlins. Donc pour moi, il y a effectivement assez d'indices qui montrent une relation amoureuse entre les deux hommes.
D'accord, mais ces baisers, ces câlins, ça peut simplement être la joie des retrouvailles. Quoique, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'à certains moments, on a l'impression que Marie de France sous-entend des choses. Comme quand elle écrit, je cite, « Le roi redonne aux chevaliers toutes ses terres et bien plus que je ne peux dire ». Est-ce un message pour nous faire comprendre leur relation ? La question se pose.
Mais la question reste ouverte, parce qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé entre ces deux hommes.
On espère juste qu'ils vécurent heureux.
Ainsi que la femme et son nouveau mari.
Voilà, notre chronique touche à sa fin.
Mais on vous laisse entre de bonnes mains avec Georges Brassens, qui va nous conter l'histoire d'un autre animal qui obéit à ses pulsions, le gorille.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Le patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, sondant dignement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux ?
Voilà, cette quatrième émission est terminée. Un grand merci à nos chroniqueurs Charlotte, Jonathan, Sarah Lou et Justin. Et merci aussi au livre de Jean-Pierre Bordier sur les laits de Marie de France, à l'article de Séverine Abiker, au site clairobscur.info, monsieurtoussaintlouverture.net, rts.ch et évidemment à Wikipédia. Sans oublier le livret du DVD de Bisclavret d'Émilie Mercier avec la traduction moderne de Françoise Morvan, publié en 2012 par les Films du Nord. Merci et à très bientôt.
Radio Cité.